Le journal Josette Sédoux, bonjour.
Bonjour. Elle surplombe Malraix depuis 25 ans. L'OBU, l'institution pour personnes en situation de handicap, fête son jubilé aujourd'hui avec une mission toujours actuelle de trait d'union entre la vie locale et les résidents. Une rizière avec la vue sur le Chasseral et les Alpes bernoises. Dans le Seeland, deux frères ont fait le pari de faire pousser du riz et ça marche. La deuxième récolte pointe le bout de son nez. On entendra l'un des producteurs nous parler de ses échanges avec les autres cultivateurs dans le monde. Il y a aussi cette victoire pour le FC Bienne hier contre Beza Saint-Gall et un ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse pour les Seelandais. Et puis un œil sur le ciel avec ses belles éclaircies mais toujours un air très froid pour la saison. La bise sera de la partie. Demain, ça se réchauffe timidement de 2 degrés avec un ciel encore plus dégagé. C'est une institution importante pour la région qui fête ses 25 ans. L'OBU à Malraix a été construite en 1999 pour accueillir des personnes en situation de handicap. Elle fait partie de la Pimpinière et s'inscrit comme lieu de vie pour ces personnes avec un grand trait d'union en direction du monde extérieur. D'ailleurs, quand on s'y rend sur les hauteurs de Malraix, un panneau cafétéria de l'OBU nous y guide fidèlement. Une fête est organisée aujourd'hui pour célébrer ses 25 ans. Marine Senero-Serrera, chef de secteur à l'OBU, explique ce que ce jubilé représente.
Alors bon, 25 ans déjà, c'est vrai que c'est un chiffre assez impressionnant. Hein. Voilà, on voulait marquer le coup. On avait aussi l'idée de faire un petit peu des portes ouvertes et on a mêlé ces deux idées dans le sens où on a cette vision inclusive, que ce soit l'OBU ou la Pimpinière, c'est vraiment de ne pas marquer la différence justement par rapport au handicap ou des personnes sans handicap. Et justement, ici à l'OBU, on a une cafétéria qu'on utilise comme lieu inclusif. Donc, qui fonctionne comme restaurant. Donc, il y a un repas qui est servi à midi. Donc, des personnes de la population peuvent venir manger durant les midis. Et puis, il y a différentes activités aussi ponctuellement qui sont organisées. Tout ça dans l'idée un petit peu pour mélanger, créer une mixité en fait entre les populations, ce qui nous paraît très très intéressant et avoir justement un petit peu cette vision inclusive.
Comment elle a évolué cette institution ?
Pour les résidents qui vivent ici depuis 25 ans, c'est vrai que le challenge est aussi d'un côté de leur fournir et puis de leur proposer des activités diversifiées pour qu'il n'y ait pas peut-être ce sentiment d'ennui. On est aussi là pour développer leurs compétences, donc il y a quand même tout un travail de développement pour l'évolution des compétences de la personne, pour qu'elle se sente bien. Et puis d'un autre côté, je dirais que pour beaucoup de nos résidents, les repères, la routine sont quelque chose de très très important, donc quelque chose voilà, qui est ancré dans leur quotidien, c'est vraiment un besoin pour eux. Donc si on viendrait à perturber aussi voilà, ce lieu d'habitat, ça pourrait être compliqué.
C'était Marine Senero-Serrera, la chef de secteur de l'OBU qui fête ses 25 ans. Et puis toute la journée jusqu'à 17h, des activités, des animations pour les enfants sont au programme. Un atelier de grimage, des concerts et puis les portes ouvertes des ateliers thérapeutiques avec notamment la musicothérapie. Midi Mouvement a fait son chemin et est désormais bien installé dans la vie de Moutier. Le programme qui propose des activités physiques et sportives pendant la pause de midi célèbre ses 10 ans cette année. Midi Mouvement a été lancé en 2014, d'abord à l'échelle de 9 communes à Moutier et dans les villages environnants. Il se concentre sur la cité prévotoise depuis 2019. En 10 ans, l'offre a réuni 821 participants au total pour 17 disciplines. Elle compte 2 sessions par an, une au printemps et l'autre à l'automne, pour une moyenne de 90 participants chaque année. La responsable de Midi Mouvement relève que le programme s'est diversifié et est parvenue à trouver son public. On écoute Fanny Meyer.
C'est vrai que ça a énormément évolué. En 2014, on avait commencé avec 3 disciplines, donc vraiment tout petit. De souvenir, il y avait peut-être moins de 10 participants par cours, donc on touchait moins de 30 personnes. Et puis avec le temps, on a essayé vraiment d'agrandir, de diversifier l'offre pour attirer d'autres types de populations, des activités plus intensives, plus douces. On a fait des choses en intérieur, en extérieur, pour essayer de toucher le plus de monde possible. Et puis petit à petit, aussi énormément avec le bouche à oreille, le programme s'est fait connaître et puis on n'a pas cessé de l'agrandir.
Est-ce qu'il y a un public type ou un participant, une participante type à ces activités ?
Oui, je dirais que le participant type, c'est quand même un travailleur de moutier parce que c'est à travers midi, de midi 15 à 13 heures. Donc, c'est des gens qui doivent être sur place, sinon c'est un petit peu short pour retourner travailler. De manière générale, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. C'est comme ça. Et puis, pour les tranches d'âge, par contre, c'est assez diversifié. Je dirais qu'on est entre 20 et 55 ans par là autour.
Le succès, finalement, qui est arrivé in fine pour cette offre, il continue, il perdure ou est-ce que vous sentez un peu une forme de tassement, entre guillemets ?
Alors, dans l'ensemble, ça marche vraiment bien. Il y a certains habitués, je pense, qui participent presque depuis la première session. Donc, il y a un grand succès. Après, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a certaines disciplines qui marchent mieux que d'autres. Il y a certaines choses qu'on a essayé de mettre en place qui n'ont pas du tout pris. Je pense, par exemple, au Nordic Walking, où on n'a jamais eu assez d'inscriptions. Et puis après, il y a d'autres disciplines qui marchent super bien, comme le renforcement musculaire qui est là depuis le début. Puis on a toujours vraiment beaucoup de monde. Ça dépend toujours. Des fois, on pense qu'il y a des choses qui vont marcher, qui ne marchent pas. Et des fois, l'inverse, c'est des fois difficile après. Voir, mais dans l'ensemble, le succès est là chaque saison.
La session d'automne de Midi Mouvement démarre la semaine prochaine avec 5 disciplines au programme : renforcement musculaire, yoga, stretching, dos posture, course à pied et shibashi. À côté des betteraves et des choux, du riz pousse dans le Seeland. À deux pas d'Arberg, une rizière va donner sa deuxième récolte de riz dans quelques semaines. C'est celle des frères Guillot, originaires du canton de Fribourg, qui ont démarré ce projet plutôt atypique en 2019 dans le Vuilly. Et il y a 2 ans dans le canton de Berne, du riz noir au jasmin pour le risotto ou les sushis. 5 variétés de riz poussent avec vue sur le chasseral. Léandre Guillot raconte l'évolution de ce projet.
Maintenant, on a plein de contacts à travers le monde, en Italie, en Camargue, au Japon. Au début, en fait, ils ne nous prenaient pas trop au sérieux parce qu'ils se disaient en Suisse, il fait trop froid. Et puis, qu'est-ce que les petits Suisses veulent faire du riz ? Et puis maintenant, quand ils viennent nous rencontrer, quand on leur envoie des photos, ils voient qu'on a un bon niveau.
Qu'est-ce qu'ils disent du coup ?
Ils sont hyper impressionnés de voir la vitesse avec laquelle on a su apprendre et puis adapter les techniques à notre climat.
Quelle pourrait être la plus-value d'un riz suisse ?
Sur un marché globalisé, il n'y a pas d'intérêt d'avoir du riz suisse. Enfin, on ne va pas se mettre à exporter du riz en Italie. Je pense que le riz suisse reste quand même un marché de niche. Et puis, je pense qu'il va le rester quand même pour un bon moment.
Comment ça se fait que vous n'avez pas choisi d'autres plantations plus faciles, entre guillemets ?
C'est vrai que le riz, c'est assez technique. Enfin, ça demande beaucoup de travail et puis de réflexion, vu qu'on est vraiment parti d'une page blanche. Et puis, il ne suffit pas de transcrire ce qui se fait en Thaïlande, où on a vraiment un autre climat ici. Mais après, moi, je suis ingénieur agronome de formation, donc j'ai aussi l'habitude de chercher de la littérature, de faire des essais et tout. Et puis, avec mon frère, lui, il s'occupe de tout ce qui est mécanisation. Donc, on se complète bien et puis on essaye de régler les problèmes qu'on a, quoi.
C'était Léandre Guillot, producteur de riz dans le Seeland. En 2023, la récolte sur les 2 sites de production a atteint les 30 tonnes. Une femme a été tuée par la chute de morceaux d'arbre cassés à Wengen. L'incident s'est produit hier matin dans le canton de Berne. La victime se promenait dans le village lorsque des bouts d'arbres sont tombés sur elle pour des raisons encore indéterminées. Après avoir été héliportée à l'hôpital, elle a malheureusement succombé à ses blessures peu de temps après, indique la police cantonale ce matin. Et puis dans l'actualité internationale, 4 personnes sont mortes en Roumanie en raison d'inondations provoquées par de fortes pluies touchant l'Europe centrale et orientale. Les victimes ont été retrouvées dans la région de Galati, dans le sud-est du pays. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, la Hongrie et la Roumanie se sont préparées depuis jeudi au passage du cyclone Boris. De nombreuses manifestations culturelles ont été annulées en raison des vents violents et des pluies exceptionnelles attendues. Et le chef de la junte en Birmanie demande de l'aide. Les inondations, là encore survenues hier, ont fait 33 morts dans le pays. Plus de 235 000 personnes ont été contraintes de quitter leur habitation. Une situation qui a poussé le chef de file à demander de l'aide à l'étranger. Une démarche plutôt rare pour ce pays en crise.
Il est midi 24.
Sport. Le FC Bienne se hisse en 8e de finale de la Coupe de Suisse sans trembler. Les footballeurs seelandais ont dominé le FC Beza Saint-Gall 6-1 hier soir en 16e de finale de la compétition. Une qualification facile pour les pensionnaires de Promotion League face à la formation albano-kosovare de 2e ligue qui, chez elle, a voulu faire de cette rencontre une fête. On écoute Nicolas Meusy.
1132 spectateurs ont garni les tribunes du stade de l'Espenmoos, l'ancien écrin du FC Saint-Gall, et la partie s'est même déroulée sous les yeux du consul du Kosovo en Suisse. Le plan de jeu des Saint-Gallois était simple, bétonner derrière pour repousser au maximum l'arrivée de l'ouverture du score. Une stratégie qui n'aura duré que 12 minutes, le temps pour le FC Bienne d'asseoir sa domination avec un but d'Omer Dzonlagic. Et les hommes de Samir Shaibedra ne se sont pas arrêtés là. Mahir Rizvanovic a doublé la mise à la demi-heure de jeu. Après le thé, la différence de 3 ligues entre les formations s'est encore accentuée. Omer Dzonlagic y est allé de son doublé à la 50e, imité par Malko Sartoretti qui a trouvé la faille à la 56e puis à la 69e. Mais Beza Saint-Gall a réussi à sauver l'honneur dans le dernier quart d'heure de jeu avant d'encaisser un 6e et dernier but venu de Jessel Rhodes en toute fin de partie. Un match pleinement maîtrisé par les Biennois qui avaient laissé au repos 4 titulaires habituels.
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse aura lieu demain soir. Le FC Tavannes-Tramelan a l'occasion d'enchaîner une deuxième victoire de suite en deuxième ligue interrégionale. Une semaine après avoir débloqué son compteur, les footballeurs du Jura bernois se rendent chez le dernier du classement qui n'a pas encore engrangé le moindre point après 4 matchs. Ils défient le néo-promu Bosna Neuchâtel à 16h au Genevais sur Cofrane. En cas de succès, le FC TT pourrait sortir de la zone de relégation. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à vous.